au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Il m'a fascinée durant 40 ans de ma vie. Qui fait cet aveu ? C'est Jacqueline de Romilly. Et quel est l'homme qui peut se vanter de l'avoir ainsi fascinée durant tant et tant d'années ? L'historien grec Thucydide. Mais elle aurait pu dire la même chose du tragédien Euripide. 40 années de travail, 40 ans à se pencher sur une œuvre exceptionnelle dont nous allons parler avec elle aujourd'hui. Jacqueline de Romilly, bonjour.
Bonjour et merci de m'accueillir, mais merci aussi de me parler de Thucydide, parce que les circonstances font que je ne travaille plus autant que pendant ces 40 années, mais c'est resté la grande affaire de ma vie.
Je le crois, en effet, chacun vous connaît comme helléniste, animé d'une vive et passion durable pour la Grèce antique, pour sa langue, le grec ancien, bien sûr. Vous êtes une ancienne élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous avez été professeur à la Sorbonne et la première femme à tenir une chaire d'antiquité grecque au Collège de France. Vous étiez déjà membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 1975, lorsque vous avez été élue le 23 novembre 1980. À l'Académie française. Jacqueline de Romilly, vous avez relaté dans votre livre « Pourquoi la Grèce ?» comment et pourquoi vous aviez choisi de travailler sur Thucydide. Alors c'est une anecdote que vous avez écrite dans plusieurs ouvrages, mais s'il vous plaît, pouvez-vous nous la raconter à nouveau ? Pourquoi aviez-vous choisi Thucydide ? Comment s'est fait ce choix ?
Je peux à peine dire que j'ai choisi d'écrire sur Thucydide. Thucydide a choisi que j'écrive sur lui. C'est-à-dire, ma mère m'avait donné, quand je venais d'entrer à l'École normale, une belle édition de Thucydide, parce qu'elle était reliée en parchemin, avec d'un côté le grec, de l'autre côté le latin. Et en vacances, je me suis mise à lire comme ça, ce texte. Et ça a été vraiment, j'ai été éblouie. Ça m'a paru dense, humain, fort, merveilleux. Et je me suis dit, je vais travailler un an sur cet auteur. Et puis, cet an a duré toute ma vie.
40 ans, voilà.
Même plus si vous prenez maintenant. Car j'y travaille encore.
Car vous y travaillez encore, et en tout cas vous en parlez encore, et nous vous en remercions. Pourquoi aviez-vous choisi d'en faire donc le sujet de votre thèse de doctorat ? Quel titre portait cette thèse ? C'est-à-dire sous quel angle étudiez-vous particulièrement Thucydide ?
La thèse s'appelait « Thucydide et l'impérialisme athénien » et en sous-titre « Essai sur la genèse de l'œuvre ». On m'avait lancé sur le sujet « La genèse de l'œuvre », c'est-à-dire quand il avait écrit telle partie, telle autre. Pourquoi ? Parce que, en fait, il faudrait préciser, Thucydide raconte l'histoire de la guerre du Péloponnèse qui a commencé sous Périclès en 430, quand Athènes était très puissante, et qui s'est terminée en 404, quand Athènes a perdu son pouvoir. Alors, c'était absolument un sujet passionnant parce qu'on voyait une immense puissance sur quoi elle se fondait et comment elle s'effondrait. Bon, alors, ça m'a paru tout de suite quelque chose de très important et surtout par l'angle sous lequel il abordait cette histoire. Ça ne devrait pas nous intéresser. Qu'est-ce que ça peut nous faire
qu'Athènes
se soit battue avec Sparte ? Personne ne sait plus de nos jours, sauf les spécialistes, quand c'était et pourquoi. Et pourtant, ça nous touche encore aujourd'hui. Mais de près, il y a des articles tous les ans qui rapprochent l'œuvre de Thucydide de l'invasion de la Belgique, de la guerre au Vietnam, de ce qui se passe dans tel pays. Il a voulu chercher dans cet événement très particulier des traits généraux. Et comme il le dit lui-même, quelque chose qui pouvait se répéter ou se ressembler plus tard à cause du caractère humain propre à ces événements. donc quelque chose tout près pour nous toucher à toutes les époques.
Donc il veut parler de l'homme, avec un grand H, peut-on dire, de la nature humaine, et c'est pour ça qu'il est toujours intéressant, et pas contemporain, mais enfin
c'est
toujours
instructif.
C'est
tout à fait juste, mais en plus, ce n'est pas un philosophe, nous ne pouvons pas dire ce qu'il pensait, ce qu'il voulait. Il montre l'aspect humain présent dans les événements. Et il a un procédé pour cette analyse qui est très remarquable. Il y a des discours par pair, un discours pour, un discours contre. On croit trop facilement que s'il y a des discours, c'est de la rhétorique, c'est des belles paroles, c'est de l'histoire pas sérieuse. Au contraire, les oppositions de discours sont un moyen d'analyser, de mettre en regard avec les doctrines et les techniques qui venaient d'être mises au point, chaque argument en face de sa réponse. Les discours sont refaits pour donner l'analyse d'une situation vue du point de vue humain. C'est un genre de débat qui existait aussi dans la tragédie à l'époque, qui nous déroute, mais qui est merveilleusement habile pour communiquer l'analyse. Nous, dans l'histoire, nous disons « cet homme pensait que, il croyait que ». Là, il oppose les deux discours possibles, des arguments pour et des arguments contre, si bien que c'est une analyse de la situation humaine.
Quand vous parlez de la méthode de Thucydide, de sa manière de procéder, vous dites « il donne sa propre interprétation ». Non pas dans des analyses ou des affirmations, mais par l'art subtil de présenter des événements sous une forme intégralement objective, comme un peintre qui peindrait un paysage. Est-il un historien objectif ? Et qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, il n'y a pas d'historien plus objectif, c'est-à-dire qu'il soit moins guidé et dont les jugements soient moins faussés par ses opinions personnelles. Mais ça n'est pas objectif dans la mesure où il ne se contente pas de donner des faits et puis à vous de les interpréter. Il vous mène avec une analyse très forte et il y a des rapports qui s'établissent entre un discours ou un autre, une formule qui se répète. On est mené par une main de maître et à cet égard, ça dépasse l'objectivité. Mais il n'y a jamais, on a fait toutes sortes de livres et d'articles en disant il a été partial ici, il a eu tort là. Et en réalité, on n'a rien pu vraiment retenir contre lui, ce qui est quand même assez sensationnel.
Alors, justement, pour parler de cette objectivité dirigée, vous dites dans votre livre, Thucydide dit les choses avec rigueur. Il donne les faits qui lui paraissent utiles, mais il classe, il subordonne, il organise. Cette hiérarchie permet d'aller du vrai au plus vrai. Est-ce que Thucydide est vraiment un historien habité par la passion du vrai ?
Je suppose, j'espère que c'est vrai, mais cette formule du plus vrai, je l'emprunte à son texte lui-même, car dans le début de l'histoire, il cherche à définir et exposer les causes de la guerre. Et il y a les prétextes, les choses dites, les reproches qui ont été donnés comme raison par les protagonistes.
Le discours officiel.
Oui, oui, officiel, façon. C'est vrai. Mais il y a, après ça, la cause alétestate, ou superlatif, la cause la plus vraie. Donc, vous voyez, quand je dis qu'il va chercher le plus vrai, il nous offre le mot lui-même. Il faut aller au fond. Et la cause la plus vraie se ramène souvent à des sentiments sains. Pour lui, en gros, la cause la plus vraie, c'est le développement de l'Empire d'Athènes et la peur que ça a causé aux autres peuples grecs.
Alors, Jacqueline de Romilly, revenons un instant, si vous le voulez bien, au travail que vous avez effectué sur l'œuvre de Thucydide. Sur quel genre de manuscrit travaille-t-on quand on retraduit parce que c'était déjà traduit, je suppose.
Oh là là, oui.
Mais alors, ça n'était pas bien traduit. Et sur quel genre de manuscrit avez-vous travaillé ?
Oui, le genre de manuscrit n'est pas très important. L'édition à laquelle j'ai travaillé, c'est pour la collection Budé, c'est-à-dire des éditions très sérieuses aux belles lettres, avec le texte français, le texte grec en face, et ce qu'on appelle un apparat critique, c'est-à-dire les différences des manuscrits. Il faut chaque fois revoir les manuscrits, parce qu'on peut toujours avoir une surprise, un mot mal lu, quelque chose qui... En fait, j'ai relu tout ce que j'ai pu comme manuscrit, ça a été épuisant. Mais ça n'a pas beaucoup changé le texte. Ce qu'il y a, ce sont des manuscrits, en gros, du Xe siècle en moyenne, si vous voulez. Ce n'est pas des documents, mais qui sont très sérieux et très valables. On en a un certain nombre. Et ce n'est pas, je pense, ici le lieu de parler de ces manuscrits. Le travail principal, c'est d'essayer de comprendre et de traduire. Et nous n'étions pas les premiers. Je dis « nous » parce que j'ai hérité des papiers d'un savant merveilleux qui travaillait à l'édition de Thucydide, qui était un provincial, Louis Baudin, un ami de Paul Mazon, le grand helléniste, et qui avait commencé à écrire sur Thucydide et à faire des traductions.
Il vous a donné ses notes ? C'est ça que vous voulez
dire ? Il
me les
a légués, oui. Mais déjà, je collaborais avec lui de son vivant. Mm-hmm. Mais ça a été très précieux. Et comme c'est un travail énorme, à la fin, j'ai été aidée. Il y a deux livres qui ont été faits par un plus jeune collègue, malheureusement disparu lui aussi, qui était Raymond Veil, qui était professeur de grec, qui était membre de... l'Académie des inscriptions, qui a été recteur, enfin, qui était un homme très éminent, qui malheureusement est mort très jeune. Mais nous sommes arrivés de cette façon à finir l'édition. Et finir l'édition, ça veut dire que sur une page, on prend 5 ou 6 éditions importantes, commentaires, avec des notes, où chacun discute le sens, la véracité historique, les rapports avec... tel autre texte qui ressemble, l'opposition avec ce que dit un tel, enfin, tout ça est dans les notes et il faut se débrouiller pour, avec tout ça, choisir le meilleur sens et arriver à le rendre en français. C'est un style très dense, très sobre, très fort. Et quand on traduit bien une phrase, on est fou de joie, on a l'impression qu'on a... toucher du doigt une merveille.
Une phrase par jour, on arrive à faire, ou une page par jour ?
On peut faire un peu plus. Mais je veux dire que l'autre jour, je lisais dans une conférence un texte d'un des plus beaux passages de Thucydide, qui est l'oraison funèbre prononcée par Périclès au début de la guerre. Et il y a des formules, c'est un style très travaillé. Et j'ai cité la phrase « Nous aimons le beau dans la simplicité ». Et les choses de l'esprit sans manquer de fermeté. Et je me suis dit, c'est pas mal. Tu arrives à trouver la densité, l'opposition, cette espèce de rime intérieure. J'ai été toute fière de moi.
C'est
Mais
un travail difficile.
Ça représentait une journée de peine et d'efforts.
C'est le travail de la traduction plus que le travail de la lecture. Il faut trouver le mot juste en français ou l'expression.
Non, il y a ça, mais le plus dur est de décider le sens, de voir pourquoi il y a ce mot-là, à quoi ça renvoie, etc.
Alors c'est un travail, vous l'avez dit, le travail de ma vie, ça a été l'édition.
Oui,
c'est un
ça
travail,
a pris des années et des années.
Austère.
Et si j'ai perdu la vue, c'est peut-être à force de regarder les manuscrits, les éditions et les petites notes.
Vous croyez vraiment que c'est à cause de ça ?
Peut-être, mais ça valait la peine.
Vous n'avez pas de regret alors d'avoir travaillé 40 ans de votre vie ?
Non, j'ai le regret de penser qu'à l'heure actuelle, l'enseignement du grec n'occupe plus la place qu'il faudrait, que les gens qui travaillent sur Thucydide sont un peu isolés dans le monde, mais... Pour moi, pour ce que j'ai fait, je n'ai pas de regret. Et quand j'ouvre par hasard un Thucydide pour vérifier quelque chose, malgré mes difficultés de vue, je me dis non, j'ai bien fait.
Jacqueline de Romilly, on vous retrouve dans un court instant. On va continuer à parler de Thucydide.
Merci.
Pourquoi la musique de Mozart est-elle tout à fait accessible à tout cœur humain ? Gilles Cantagrel, correspondant à l'Académie des Beaux-Arts, est venu présenter une communication sur Mozart le 22 mars 2006 devant les membres de l'Académie. À travers les manuscrits du célèbre compositeur, Gilles Cantagrel vous propose de découvrir, selon ses mots, quel fut le tempo de la vie du célèbre compositeur dont la brièveté souligne le génie miraculeux. Retrouvez Gilles Cantagrel dans l'émission En séance.
Nous retrouvons Jacqueline de Romilly dans le studio de Canal Académie et nous parlons de Thucydide, l'homme et l'œuvre qui ont occupé toute sa vie d'helléniste. Mais Jacqueline de Romilly, Thucydide n'est pas le seul historien de l'Antiquité. On pourrait parler d'Hérodote qui a écrit l'Enquête ou l'Histoire. Ils sont à peu près contemporains. En quoi Thucydide est-il différent d'Hérodote ?
Ils ne sont pas tout à fait contemporains. Hérodote a précédé Thucydide et une légende possible raconte que la vocation d'historien de Thucydide est née en entendant une lecture d'Hérodote dans Athènes. Hérodote est considéré comme le fondateur de l'histoire et en effet, c'est le premier qui raconte des événements qu'il a vécu. C'est pour lui, c'était les guerres médiques, c'est la période d'avant. Selon ce que nous appelons l'histoire. La différence énorme, c'est qu'il les raconte de façon très plaisante et charmante, mais en s'arrêtant aux légendes, à ce qu'on raconte, à des phénomènes
religieux, bizarres. Mythologiques un peu.
Un peu de mythologie, il se renseigne, il va en Égypte, il interroge les gens. Thucydide, c'est le contraire. Il raconte des choses qu'il a connues et qu'il observe avec un esprit critique, extrême, et en ne retenant que l'aspect humain et rationnel. Il n'y a jamais d'éléments divins, de mythes, etc., dans son histoire. C'est vraiment de l'histoire politique, au sens le plus moderne du mot.
C'est pour ça que vous avez intitulé l'un de vos ouvrages, parce que vous en avez consacré beaucoup à Thucydide, c'est « Histoire et raison chez Thucydide », ou « La construction de la vérité chez Thucydide
». Oui, voilà. C'est ça. Il y a toujours la raison s'en mêle à tous les degrés. Alors, peut-être que ce que je dis donne une impression de caractère trop abstrait, trop rationnel. Et cependant, parce que c'est abstrait, rationnel, cohérent, c'est passionnant. Je veux dire qu'on suit avec émotion, il explique si bien ce que va être une bataille, quels sont les atouts d'un côté et de l'autre, et puis après ça vient le récit. On comprend, on se dit, mais alors, oui, ils y arrivent, ah, c'est les autres qui avaient raison. Tout prend un sens et du coup, c'est complètement rationnel, mais toujours palpitant.
Et en même temps, vous expliquez bien qu'il veut parler des événements du passé dans la mesure où ça va servir de leçon à l'avenir. Il a un grand souci de l'avenir, Thucydide.
C'est-à-dire que c'est sa fameuse phrase que j'évoquais tout à l'heure. Il espère que ça sera utile non seulement pour ceux qui veulent comprendre ce qu'il a raconté, mais pour des gens qui voudraient comprendre des événements postérieurs qui ressembleraient. C'est l'avenir, c'est ça le souci de l'avenir. Mais c'est surtout, il faut se rendre compte qu'il raconte, au total, on part de la grandeur d'Athènes au moment de Périclès, de son pouvoir sur toute la Grèce. Et à la fin, bien qu'il n'aille pas jusqu'à la fin de la guerre, il meurt avant de finir son œuvre. Il a connu la fin de la guerre, il y fait allusion, mais le récit ne va pas jusque-là. Mais à la fin de la guerre, il n'y a plus rien, il y a la défaite complète. C'est donc une aventure humaine extraordinaire quand l'on peut comparer aux aventures de Napoléon, d'Alexandre, d'Hitler éventuellement, où on voit la puissance, les dangers du pouvoir, etc. Et où on vit cette aventure en pensant aussi au présent. Cette époque, c'est quand même la grande époque. J'ai dit qu'ils venaient juste après Hérodote, ils ont été ensemble dans les rues d'Athènes, il était plus jeune. Mais c'est en même temps, il était contemporain de Socrate, il était contemporain d'Euripide. Tout ça, c'est le moment où, d'une éclosion extraordinaire, et il en fait partie, et il est le créateur, dans une certaine mesure, de l'histoire rationnelle. Il n'a pas été suivi parce que on a renoncé à cette façon d'analyser, aux discours opposés, et puis on ne sait plus davantage aux anecdotes. On est revenu à une histoire plus complète, plus présente, mais il y avait déjà tout. Et cela fait 8 livres, l'histoire de Thucydide. Et, c'est-à-dire, mettons...
Énorme.
Enfin, ça fait, mettons, 4 livres, actuels, 4 oui. volumes, si l'on veut. Mais tout tient là-dedans. On peut y retourner indéfiniment.
Jacqueline de Romilly, quels sont les grands personnages, les passages célèbres? Parce que vous dites que c'est une grande époque, évidemment. Est-ce qu'il évoque tous les grands personnages?
Il évoque tous ceux qui ont joué un rôle. Et avant tout, je dirais, les deux plus importants, c'est pour la grandeur au début, Périclès, et pour les drames vers la fin, Alcibiade. Ce sont deux grands noms. Alors, Périclès a voulu la grandeur d'Athènes, et d'après Thucydide, si on avait suivi ses conseils, cette grandeur pouvait être maintenue. Seulement, on a fait des fautes, on s'est querellé, il y a eu des difficultés politiques. Alcibiade en est l'exemple, qui a été en querelle et en difficulté, qui a été exilé, qui est passé du côté de l'ennemi, qui est revenu, qui représente l'homme le plus brillant, le disciple de Socrate, mais aussi l'homme égoïste qui pense à son intérêt plus qu'au bien de la patrie et qui est doué et charmant, mais pas
pour le bien commun.
Il est doué pour l'obtenir, mais enfin, il y a eu des procès célèbres. Donc, ce sont deux figures étonnantes. Et pour Périclès, elle s'illustre dans un discours qui est très connu et qui m'est très cher. Il a très peu vécu dans la guerre du Péloponnèse, mais il a été chargé, il était chef de la politique au début, et d'ailleurs responsable, il a décidé la guerre, mais il a été chargé de faire l'éloge des morts, et c'est ce fameux discours qui est un éloge, non pas vraiment de la démocratie athénienne, mais de l'idéal de vie que poursuit la démocratie athénienne, la place de la liberté et de l'ordre, des fêtes, de l'accueil aux étrangers, du courage, de la participation à la vie politique. Récemment, on m'a beaucoup demandé de livres sur la démocratie athénienne, mais c'est là qu'on en trouve les principes dégagés, avec force et avec un idéalisme extrême.
C'est comme une utopie, ça n'a pas véritablement existé.
Non, et ça a choqué certains que ce soit plus beau que la réalité. Mais ça n'est pas censé, dit, pourquoi on vit? Et je trouve très beau, et particulièrement grec, de se définir, non pas par ses façons quotidiennes, mais par ce pourquoi on vit.
Oui, question qu'on peut se poser tout le temps, et surtout quand les démocraties sont en difficulté.
Oui, même là, elles ne l'étaient pas encore à ce moment-là, mais le texte reste et peut servir. Ça ne veut pas dire que Thucydide s'adonnait à un optimisme béat. Il est plutôt pessimiste en général. Et puisque je parle de ce texte très célèbre, et rempli de beauté et d'idéalisme, j'aimerais mettre en rapport un texte que je relisais avant-hier pour tout à fait d'autres raisons, qui montre le désordre moral qu'amène en Grèce la guerre et la guerre civile, et qui dit que c'est épouvantable quand les gens se mettent à agir. Ils n'admirent que la ruse, l'intrigue et l'ambition. et rien ne compte plus. La parenté compte moins pour eux que le parti, dit-il.
Ah,
il y a des formules, on est absolument saisi. C'est au contraire une peinture très très noire, c'est au livre 3. On peut opposer les deux. Ce sont deux textes célèbres, si on veut, et qui nous touchent encore aujourd'hui dans notre histoire pour deux raisons opposées l'une à l'autre.
Ce qui prouve que vous lisez et vous continuez à vous faire lire au moins Thucydide. Je vois que vous ne l'abandonnez pas comme cela.
On n'abandonne pas un homme avec qui on a fait toute sa vie.
Jacqueline de Romilly, Thucydide, vous dites qu'il a donné naissance à l'esprit critique, à l'objectivité systématique, et vous le tenez même pour, d'une certaine façon, le découvreur des sciences de l'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui aborde les problèmes avec un autre regard, c'est-à-dire il n'y a plus l'intervention ou l'explication du divin,
oui.
Tout est dans la nature de l'homme. Et on peut vous le comparer même avec Hippocrate, c'est la même démarche intellectuelle que la médecine d'Hippocrate.
Thucydide cite d'ailleurs la médecine d'Hippocrate quand, à un moment donné, un des orateurs se tourne vers le président de l'Assemblée et lui dit « Sois le médecin de la cité et conseille-lui les choses à faire », enfin, se référant à l'exemple médical. Ceci posé, Hippocrate n'était pas athénien, ses idées sur la médecine étaient connues, mais il n'y a sûrement pas eu de contact direct. Alors, la comparaison reste valable parce qu'il cherche à définir, j'ai parlé de l'idéal humain à propos de l'oraison funèbre prononcée par Périclès, mais il y a aussi, à côté de cela, les faiblesses, les maladies. Dans le texte du livre 3 auquel j'ai fait allusion, il dit qu'on verra toujours ces difficultés tant que la nature humaine restera la même. Et la nature humaine, c'est à la fois l'ambition, le manque de courage, la cupidité, etc., en même temps que l'idéal.
Jacqueline de Romilly, un mot sur les relations entre Thucydide et les sophistes, c'est-à-dire à propos de cette rhétorique. Les écrits sophistes, justement, ils se sont perdus. Comment l'œuvre de Thucydide est-elle arrivée, elle, jusqu'à nous? On se le demande.
On peut se le demander, en effet, comment l'œuvre de Thucydide est venue jusqu'à nous. Et c'est assez amusant, si on peut dire, parce que l'œuvre, comme je l'ai signalé, est inachevée. Il fait plusieurs fois allusion à la fin de la guerre, en 404 avant Jésus-Christ, mais son récit s'arrête en 411 avant Jésus-Christ, au milieu d'une phrase, comme ça. Et on ne sait pas qui l'a fait connaître, qui a,
oui,
l'a publié, si on peut dire. Mais il est remarquable que plusieurs historiens ont commencé leur histoire là où ils s'étaient, par hasard, arrêtés. On a pris la suite. Et même Xénophon, qui est quand même un historien connu, a pris la suite là où Thucydide s'était arrêté. Alors, qui l'a fait? Il y a eu toutes sortes d'hypothèses qui sont complètement gratuites, on n'a aucun élément pour le savoir, mais cette histoire a été connue très vite de tout le monde en Grèce.
Jacqueline de Romilly, s'il y avait un mot que vous aimeriez conserver de Thucydide, alors un mot en français ou un mot grec, quel serait votre mot préféré?
Oh, ça c'est une question horrible, moi qui ai passé toutes mes années sur tous les mots de Thucydide, comment voulez-vous? J'aimerais trouver un mot qui représente un peu d'idéalisme, mais je trouve des mots extrêmement sévères. Il parle presque toujours de la crainte, avec les deux valeurs de la crainte, déos qui est l'appréhension du mal, phobos qui est la crainte immédiate. Il parle beaucoup du désir du plus qui représente l'impérialisme. Et j'avais une fois fait une conférence où je disais qu'on pouvait suivre à travers l'œuvre, quand il répète ces mots, qu'on voit tout à coup le désir du plus, puis répéter le désir du plus, je disais que c'était comme dans les lignes de métro où on presse un bouton et les rapports s'illuminent, on voit quelle ligne il faut prendre et par où il faut passer. Eh bien là, on voit depuis l'ambition jusqu'à la défaite, on passe par des termes semblables. Alors ne me demandez pas d'en choisir un, hein, il y en a trop.
Vous les aimez tous?
Presque.
Jacqueline de Romilly, je voudrais terminer cette émission sur Thucydide en citant une phrase que j'ai trouvée dans vos œuvres. Au sein de cette œuvre d'histoire, on voit apparaître en germe ce qui devait, des siècles plus tard, devenir les sciences de l'homme, ou comme l'on dit aujourd'hui, dans la crainte que le singulier ne sonne par trop humaniste, les sciences humaines. Vous considérez donc qu'au fond, Thucydide, c'est un pionnier dans l'avancement de la connaissance de l'homme ?
Je le considère absolument, et cependant, ça serait un peu ridicule de le présenter à cet égard comme isolé. Ce qui caractérise cette troisième partie du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'effort commun pour comprendre l'homme, pour arriver à distinguer les lois, ce qui compte, les défauts. Tout ça, ils l'ont fait ensemble. Il y a beaucoup de rapports entre Thucydide et Euripide. Mais Thucydide, on peut parler de science de l'homme parce que c'est une œuvre entièrement vouée à la connaissance, tandis que la tragédie est autre chose, s'adresse au public, aux émotions, etc. Mais il faut se rappeler que c'est aussi la période de Socrate et qu'on commence à discuter philosophie. Il se trouve que beaucoup des éditeurs ou commentateurs de Thucydide au cours de l'histoire ont été des philosophes. Hobbes, le philosophe anglais, avait traduit Thucydide. C'est quand même considérable.
Absolument.
Et c'est une indication justement de ce qu'il a apporté pour la réflexion sur l'homme sous ses divers aspects.
Et vous, Jacqueline de Romilly, vous avez non seulement traduit et présenté Thucydide, mais écrit beaucoup d'ouvrages dont je vais rappeler les titres. Thucydide et l'impérialisme athénien, ça c'était, je crois, donc le titre de votre thèse. Oui. Histoire et raison chez Thucydide, qui lui est paru aux éditions des Belles Lettres. La construction de la vérité chez Thucydide. Et puis aussi plusieurs conférences qui sont toutes regroupées dans un même volume intitulé « L'invention de l'histoire politique chez Thucydide ». Et c'est une publication de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. C'est un ouvrage que l'on peut tout de même trouver. C'est pour cela que je le signale. Et puis, bien sûr, je recommande à nos auditeurs évidemment la traduction de l'histoire de la guerre du Péloponnèse parue aux éditions des Belles Lettres chez Guillaume Budet. Voilà, Jacqueline de Romilly, je vous remercie infiniment de nous avoir éclairé sur non seulement l'homme qui a tenu une grande place dans votre vie, mais qui tient, je crois, une grande place dans l'histoire humaine.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie parce que je me suis tellement battue avec ce texte et je l'ai tellement admiré. J'ai eu tellement d'émotions, de joie en le relisant que quand on en parle, quand vous en parlez, quand on le fait connaître, je suis heureuse et reconnaissante.
Merci à vous, Jacqueline de Romilly.